Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Pierre-Yves Bournazel, député Les Constructifs, élu du 18e arrondissement de Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Pierre-Yves Bournazel, nous allons parler tout à l'heure de vos projets pour Paris et des municipales qui se profilent déjà. Mais j'aimerais d'abord qu'on s'intéresse à votre activité parlementaire. Vous êtes à la commission culture à l'Assemblée nationale. La loi sur les fake news a été adoptée cette semaine. Elle avait été très critiquée par Jean-Luc Mélenchon lors de la discussion. Concrètement, que va-t-il se passer si de fausses informations sont publiées en période électorale ?
Écoutez, d'abord, je crois que on assiste à des évolutions assez perturbantes. On a vu notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, même en France, durant les dernières campagnes électorales, surgir des tentatives de déstabilisation. Et ça oblige à agir. Et donc, dans un premier temps, moi, je voudrais qu'on rappelle que l'information et la confiance en l'information sont au cœur de la vie démocratique et qu'il est important de protéger nos vies démocratiques des interférences étrangères, des manipulations des informations, de la désinformation. Et donc c'est la raison pour laquelle moi j'étais tout à fait favorable qu'on puisse se prémunir contre ces tentatives d'influence étrangère et j'étais tout à fait favorable à ce que le législateur et le gouvernement travaillent de concert pour agir. Néanmoins, j'ai émis quelques réserves, et ces réserves, c'est notamment les dispositions du titre premier, et notamment du nouveau référé qu'ils ont voulu mettre en place, parce que je pense que le juge ne pourra pas agir en 48 heures et qu'il n'a pas les moyens. Parce qu'en fait, en un clic maintenant, et en quelques secondes et en quelques minutes, une information peut se propager. Et donc, je crains qu'on soit encore très loin de ce qu'il faudrait faire. Et je pense que c'est à l'échelle européenne, en réalité, qu'il faut mener le combat et qu'il faut une harmonisation là de notre droit pour avancer, pour protéger nos vies démocratiques de toutes les manipulations et interférences. Et c'est le bon échelon, je pense, pour le faire. J'ajoute par ailleurs que il est important de développer l'éducation aux médias. Je crois que c'est l'enjeu essentiel. L'éducation aux médias, ça doit passer par l'école, ça doit passer par l'audiovisuel public, qui a un rôle évidemment majeur à faire. Apprendre aux citoyens à penser par eux-mêmes, à comprendre et apprendre le monde tel qu'il est, à se faire leur propre vision et à ne pas se laisser manipuler effectivement par celles et ceux qui font du matraquage, notamment sur les réseaux sociaux.
L'éducation aux médias, ça passe notamment par l'école. Le précédent gouvernement avait commencé cette éducation aux médias. On sait que les enfants, les adolescents puisent leurs informations sur YouTube et Instagram. C'est véritablement un enjeu de société.
C'est un enjeu de société majeur. La multiplicité d'informations est incroyable aujourd'hui. Une information chasse l'autre dans la seconde. Des fausses informations interfèrent avec de véritables informations vérifiées. Et donc, il est important d'apprendre, à chaque citoyen d'apprendre et de comprendre le monde par lui-même, de penser par lui-même et de voir où est la manipulation et là où elle ne l'est pas. Et c'est là que, dès l'école, il y a une action à mener. Et moi, je souhaite qu'on puisse réfléchir dans le cadre du Conseil supérieur des programmes à des actions importantes. Et puis, je crois que l'audiovisuel public doit aussi, dans le cadre des missions, permettre à chacun de faire vérifier les faits et les informations qui sont données. Sur les réseaux sociaux, tout va très vite. On donne des informations brutes qui parfois sont de véritables fausses nouvelles. Et il est important de se prémunir de cela.
Pierre-Yves Bournazel, il y aura aussi une mission sur la déontologie de la presse, comme l'avait réclamé Jean-Luc Mélenchon. C'est un vrai sujet pour vous, la responsabilité des médias, notamment dans les périodes tendues. On se rappelle qu'une chaîne de télévision avait donné des informations pouvant mettre en danger la vie des otages en janvier 2015.
Oui, j'y suis favorable. Je l'ai dit déjà il y a plusieurs mois. Jean-Luc Mélenchon avait parlé de sa propre vision. Moi, j'avais évoquer le sujet en d'autres termes, mais l'idée pouvait se rejoindre. La ministre, Madame Nissen, a apporté une nouvelle contribution. Je crois qu'on peut avancer vers cette déontologie de la presse, un conseil justement pour renforcer la lutte contre la désinformation et les manipulations de l'information. Alors, quel serait son intérêt? Eh bien, c'est-à-dire de protéger les médias, j'allais dire traditionnels, les médias professionnels, et de pas les mettre en concurrence avec l'horizontalité des réseaux sociaux où là, n'importe qui, n'importe comment peut donner une information qui est complètement fausse. Donc, je crois que c'est important de protéger hein, notre radio, notre télévision et nos sources d'informations fiables exercées par des professionnels. Et encore une fois, j'insiste sur ce point, l'audiovisuel public et l'école ont un rôle majeur à jouer dans l'éducation aux médias. Et là aussi, il faut renforcer nos dispositifs.
Pierre-Yves Bournazel, vous avez présenté un rapport qui servira de base à la future loi audiovisuelle à la fin de l'année. Parmi tous les points évoqués par ce rapport, quels sont selon vous les points prioritaires ?
Ce qui est important, c'est de protéger la propriété intellectuelle, littéraire, cinématographique, le théâtre, le spectacle vivant, la danse, l'opéra, toutes celles et tous ceux qui créent. Protéger les droits des auteurs, celles et ceux qui créent. Là aussi, parce qu'il y a une mutation profonde. Aujourd'hui, justement, avec le numérique, on n'évitera pas le numérique, c'est très bien. Il faut accompagner le numérique. C'est une source nouvelle, importante et essentielle. Mais il y a des concurrences déloyales. Il y a une forme d'asymétrie de la régulation, avec des contraintes très lourdes qui pèsent sur le secteur audiovisuel. Et puis, de l'autre côté, aucune contrainte qui pèse sur ce qu'on appelle les GAFA, les GAFAN, c'est-à-dire ces grands groupes qui agissent sur le numérique. Si on veut préserver notre modèle, la diversité culturelle, la diversité de la création, il faut faire contribuer ces GAFAN qui ne contribuent pas aujourd'hui ou soutiennent la création. Et la directive SMA sur les services médias audiovisuels de l'Union européenne vont obliger ces grands groupes, je pense à Netflix par exemple, à financer 30% d'œuvres européennes. Et nous, nous disons que oui, nous voulons sauver notre modèle d'exception culturelle française et qu'il est important pour ça de lutter contre le piratage. Il est important de soutenir l'audiovisuel public, qui est garant de la qualité de l'information, qui est garant du soutien à la création, et bien expliquer à nos concitoyens que lorsque on regarde une émission ou un film ou un documentaire sur son iPhone ou sur son iPad, ce contenu-là est souvent produit par l'audiovisuel. Et que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de téléviseur qu'on ne regarde plus son poste de télévision, qu'il ne faut pas soutenir l'audiovisuel parce que c'est ce secteur-là qui participe à construire notre modèle d'exception culturelle en matière cinématographique, en matière de séries, en matière de longs et courts-métrages, en matière de spectacles vivants,
etc. La redevance ne doit plus dépendre de la possession ou non d'un téléviseur.
Non, parce que...
En 2018, ça ne se justifie plus.
Aujourd'hui, le contenu, c'est-à-dire un film, un documentaire, une série, peu importe, etc., ce ne diffuse pas que à la télévision. Il est financé par l'audiovisuel, mais il peut être retrouvé sur votre iPad, sur votre iPhone. Et d'ailleurs, France Télévisions commence à développer ces contenus-là lui-même sur son propre site.
Puisque vous êtes très impliqué dans les questions d'audiovisuel, l'existence de radios thématiques comme Africa numéro 1 et Radio Orient, c'est important pour le législateur que vous êtes, la pérennité de ces radios qui donnent
oui.
des informations complémentaires.
Oui, oui et oui, parce que c'est la pluralité de l'expression, c'est la pluralité de la qualité de l'information. C'est une garantie essentielle dans notre démocratie du dynamisme, de la pensée, de l'échange et d'associer les auditeurs à la radio qu'ils apprécient et qu'ils aiment. Et donc c'est pour ça que nous avons aussi fait des propositions pour renforcer des radios comme Radio Orient, Africa numéro 1 et tant d'autres, notamment en développant la radio numérique terrestre et en associant les grands groupes à ce dispositif pour faire connaître davantage les radios qui ont une existence moins forte en audience, mais qui ont leurs auditeurs et qui pourraient gagner des marges de manœuvre et des parts de marché. C'est les préconisations que nous faisons, nous, dans notre rapport. C'est la volonté que nous avons de permettre la pluralité et la diversité de l'information et de l'offre radiophonique. Ça nous paraît absolument essentiel et une garantie de vous faire gagner de la visibilité et que ce pluralisme-là est une chance.
Pierre-Yves Bournazel, je change de sujet. La concertation sur les retraites a commencé. Il n'y aura pas de loi avant les européennes. Le sujet des retraites est un sujet explosif pour la majorité.
À la question des retraites, c'est un sujet majeur. Parce qu'aujourd'hui, notre système ne va pas tenir en termes d'équilibre financier. Nous rentrons de plus en plus tard sur le marché du travail. Il y a des coupures dans la vie, malheureusement ou heureusement, selon les cas. et qu'il faut trouver un système qui garantisse la répartition, c'est-à-dire la justice sociale, et qui garantisse en même temps le financement. Le gouvernement travaille sur un euro cotisé, donnant les mêmes droits pour chacun. C'est équitable. Mais il y a aussi à préserver des secteurs ou des parcours de vie qui peuvent être différents, qui peuvent être accidentés et qu'il faut protéger. Et pour cela, moi je ferai dans les mois qui viennent un certain nombre de propositions sur ces secteurs professionnels ou sur des ruptures dans le cadre de son activité professionnelle, notamment pour les personnes qui ont connu des périodes de chômage, qu'il y ait un système qui garantisse cette justice sociale et cette possibilité d'accéder avec des droits à la retraite. Donc je crois qu'il faudra trouver le juste équilibre entre la balance financière, l'équilibre, réformons, mais en garantissant la justice sociale, notamment pour les plus précaires et ceux qui, malheureusement, n'ont pas eu la chance de leur vie de pouvoir travailler.
Alors, Pierre-Yves Bournazel, avant les municipales de 2020, il y aura les européennes dans quelques mois. On le voit, les partis populistes vont beaucoup agiter la peur des réfugiés pour tenter de gagner des voix. Le sujet a été évoqué par Matteo Salvini et Marine Le Pen qui vont aller main dans la main à ces élections. Il y a un vrai risque de voir les partis nationalistes entrer en force au Parlement européen ?
Oui. Le nationalisme, le populisme, c'est un poison. C'est un poison qui mine nos sociétés démocratiques. Le nationalisme, François Mitterrand nous l'a enseigné, c'est la guerre. Le nationalisme cherche toujours un ennemi à l'intérieur et à l'extérieur. Il essaye de monter les populations les unes contre les autres. Et ça, c'est un danger. Et face au nationalisme, il vaut mieux défendre le patriotisme. Romain Gary disait, le nationalisme, c'est la haine des autres, le patriotisme, c'est l'amour des siens. Il vaut mieux être patriote, et amoureux de son pays, et quand on aime la France, on en aime la France dans sa diversité d'origine, de conditions sociales et de quartier. On essaye de rassembler, d'apaiser, et de faire en sorte que chaque citoyen puisse avoir un destin commun, et non pas de les diviser. La division est dangereuse pour l'avenir de la société. Et pour celles et ceux qui font une certaine idée de la France, une certaine idée de l'avenir de l'Europe, eh bien je pense qu'il faut les rassembler, les associer derrière une démarche commune. Il faut sauver l'Europe, parce qu'elle est en danger d'eux. Le danger de la dislocation, on a vu avec le Brexit, la Grande-Bretagne va sortir de l'Union européenne. Toutes celles et tous ceux qui avaient expliqué au peuple anglais que c'était mieux ont menti. D'ailleurs, celles et ceux qui ont fait campagne pour la sortie de la Grande-Bretagne ont été incapables d'assumer les responsabilités et ont fui. Après le vote pour le Brexit, et on voit bien qu'il y a la montée des nationalismes en Italie, en Autriche, en Slovénie, en Pologne, et que nous ne sommes pas à l'abri. Et que donc, il faut que l'Europe porte des projets concrets. C'est le bon échelon pour mener des grands projets majeurs pour l'avenir de notre humanité. Le défi climatique, pour avoir une planète où on assure la transition écologique et énergétique. Il y a urgence. Moi, je me suis battu à l'Assemblée nationale. Je suis le seul député parisien à avoir voté pour l'interdiction du glyphosate. Je me suis battu sur l'alternative.
Contre l'avis de la majorité.
Oui, du gouvernement. Et je le regrette.
À laquelle vous...
Je suis constructif, voilà, donc êtes... je vote des projets du gouvernement quand il me semble aller dans le bon sens, tout en gardant ma liberté de ton et mon indépendance. C'est la preuve. Lorsque je suis pas d'accord avec le gouvernement, je vote des amendements. Je me suis retrouvé avec des élus de la France insoumise sur ce sujet, des élus socialistes, Madame Bateau, des élus marcheurs aussi, et moi-même constructif, pour demander l'interdiction du glyphosate, parce que c'est un véritable danger pour notre santé publique et qu'il faut assurer cette transition. C'est un exemple là pour vous dire. Mais c'est bien à l'échelle européenne qu'on va pouvoir mener des synergies qui seront efficaces pour convaincre aussi d'autres partenaires au-delà de l'Europe d'avancer plus vite sur cette transition et accompagner les emplois de demain et d'après-demain dans l'économie verte. C'est un changement de vision aussi de notre économie. Et tout ça, il faut le faire avec des partenaires. Le défi migratoire, le déplacement des populations qui soient dues à la guerre, à la famine, à la misère ou aux conditions climatiques, ça doit être géré pour améliorer les conditions d'accueil. Il faut agir à l'échelle européenne pour éventuellement se battre pour le maintien de certaines populations dans leur pays d'origine, c'est-à-dire la politique du co-développement, la politique de la coopération. C'est bien à l'échelle européenne qu'on va pouvoir mener des synergies et des vrais projets pour aider, des vrais projets concrets. L'accès à l'eau, l'accès à une alimentation durable, construire des écoles, développer l'électrification, sont des projets concrets. C'est bien à l'échelle européenne qu'on peut le faire. Et puis, il faut l'harmonisation fiscale et sociale à l'échelle européenne pour faire la véritable intégration économique, si nous ne voulons pas de distorsion de concurrence à l'intérieur de l'Europe. Et donc, il faut agir, il faut avancer. Ce sont par exemple là, trois grands projets majeurs où il faut porter maintenant des idées concrètes, financées, pour que l'Europe ne soit pas une Europe qui norme tout, mais qui s'occupe de l'essentiel des enjeux du XXIe siècle. Et puis j'ajouterai un dernier point, puisque c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est l'Europe de l'éducation et de la culture, justement, parce que sur l'éducation, il faut développer les partenariats d'Erasmus davantage, parce qu'il faut développer les partenariats, les échanges, il faut faire connaître les pays.
Il faut que l'Europe soit un peu plus incarnée.
Il faut qu'elle soit plus incarnée.
Par des projets concrets.
Incarnée par des projets concrets. Et nous avons la liberté de déplacement des biens et des personnes. Il faut qu'on le vive, il faut que ce soit un atout. Et face à la montée des nationalismes, c'est la réponse européenne qui est la bonne. Et face aux mutations du monde, face à un Donald Trump qui joue contre l'Europe et qui s'attaque aux intérêts économiques de l'Europe, face à une Chine qui investit partout en Afrique et en Amérique du Sud, face à une Russie qui se sent de plus en plus forte et qui appuie de tout son poids pour influer au Proche et Moyen-Orient, il faut associer et faire coopérer encore davantage les pays européens sur des projets majeurs pour que l'Europe soit une vraie puissance diplomatique, une vraie puissance économique qui assure la justice et la cohésion sociale sur ces territoires et qu'elle s'occupe moins de normer, mais qu'elle s'occupe plus d'agir pour les populations et protéger de la montée des nationalismes qui conduiront toujours à la haine de l'autre et donc à la guerre.
Alors, on a parlé tout à l'heure de l'Europe, on va parler d'un sujet qui vous intéresse beaucoup, Paris. Vous vous inquiétez de voir le nombre d'élèves diminuer chaque année à Paris. Est-ce que ça signifie que les familles avec des enfants quittent massivement la capitale ?
Malheureusement, oui, parce que Paris est une ville chère d'abord. Chère pour accéder au logement, que ce soit au prix de la location ou au prix de l'achat. Compliquée aussi au quotidien, une ville qui devient assez stressante, qui prend beaucoup d'énergie, alors que nous sommes la plus belle ville du monde et que nous avons beaucoup d'atouts. Et donc, moi je suis pour que l'on puisse vraiment travailler sur le maintien des familles dans Paris aussi intramuros. Ça passe par une politique plus diversifiée de l'offre de logement, entre le logement social que l'on doit poursuivre pour favoriser celles et ceux qui sont les plus en difficulté dans notre ville, du logement intermédiaire qui s'adresse beaucoup souvent aux familles, qui gagnent pas assez pour aller dans le logement privé, mais soi-disant trop pour aller dans le logement social. Et puis je me souhaite relancer ce qui n'existe plus aujourd'hui à Paris, c'est de l'accession sociale à la propriété, c'est-à-dire permettre à des locataires qui sont dans le logement social depuis un certain nombre d'années, qui ont payé régulièrement leur loyer, de pouvoir devenir propriétaires de leur logement. Ils ne le pourraient pas dans le privé, ils le pourront grâce à ce dispositif pour transmettre un jour leurs biens à leurs enfants. Je pense que ça c'est important, donc de créer de la diversité. Mais il faut aussi avoir le courage de dire que c'est à l'échelle de la métropole qu'on peut agir sur le logement. Paris est une petite ville de 105 km², qui est la ville la plus dense d'Europe, qui a une densité aussi importante que Mumbai, on n'imagine jamais, et que c'est pas dans Paris intramuros qu'on va résoudre la crise du logement. Il va falloir travailler en partenariat avec les communes riveraines, avec la métropole, pour établir là aussi des synergies, travailler ensemble, pour notamment faire émerger de nouveaux écoquartiers, c'est-à-dire écologiquement responsables, avec du logement social, intermédiaire, privé, accession sociale aux propriétés, notamment près des lieux de déplacement, de transport en commun qui vont émerger avec le Grand Paris Express et qui seront des lieux de développement économique majeur. Et que Paris doit savoir travailler avec la métropole et les communes riveraines, car c'est bien à cette échelle-là qu'on va pouvoir résoudre la crise du logement et permettre à chacun d'accéder à un logement décent. Et ça, c'est très important.
Alors, les Parisiens, Pierre-Yves Bournazel, sont très préoccupés par les questions de sécurité et d'insalubrité. Il y a notamment ce quartier dangereux que vous connaissez bien, où les consommateurs de crack agressent parfois les passants. Ce vendredi, vous avez adressé une lettre ouverte à l'État et à la ville de Paris concernant la situation dans le nord-est de la capitale. Ce sont des quartiers qui ont été délaissés par les pouvoirs publics ?
Incontestablement, ne sont pas la priorité. parce qu'on accepte dans le nord-est de Paris ce qu'on n'accepterait nulle part ailleurs. Moi, je suis un député, mais un habitant d'abord du 18e arrondissement. Ça fait des années d'ailleurs, comme élu de l'opposition municipale, que je dis qu'il y a une dégradation progressive de la vie quotidienne, une concentration des difficultés. Et on ne peut pas l'accepter. Entre la prolifération des ventes illégales, sauvettes, drogues, proxénétisme, des violences, viennent s'ajouter des problèmes complètement différents qui ne sont pas liés. Mais on a eu aussi la porte d'entrée d'installation des migrants et des réfugiés qu'on a laissés dans la rue alors qu'il fallait, et moi je l'ai toujours dit, créer des centres humanitaires pour ces personnes-là. C'est la dignité et l'humanité qu'on leur doit. Et en même temps, ça règle les problèmes de tranquillité des riverains. C'était gagnant-gagnant. On a laissé prospérer les difficultés. Il y a le crack qui s'est réinstallé dans nos quartiers avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Il faut s'occuper de ces personnes-là qui ont besoin d'un suivi psychologique et social, qui ont besoin de sortir de cette spirale infernale de la drogue. Il faut les sortir de la rue. Et en les sortant de la rue, on les traite. Mais en plus, on règle les problèmes des riverains.
Des enfants qui
oui,
sont...
Oui, il y a les mineurs marocains, ce qu'on appelle les mineurs marocains, mais ils ne sont pas seulement marocains d'ailleurs. Il y a des mineurs qui ont 12, 13, 14 ans, qui sont livrés à eux-mêmes. Il faut les sortir de la rue pour les protéger aussi eux-mêmes et régler les problèmes pour les riverains aussi. C'est en traitant les problèmes à la racine qu'on va sortir ces personnes-là avec leurs différents problèmes de leurs difficultés et régler les problèmes de tranquillité, de sécurité dans la rue. Car la concentration dans les mêmes quartiers de tous ces problèmes-là pénalise la qualité de vie au quotidien. Et donc moi, je sonne encore une fois, parce que je n'ai pas le pouvoir de décision, mais la volonté de défendre les habitants, les Parisiens de ce beau quartier, de ces beaux quartiers qui sont divers, qui sont pluriels, où chaque citoyen attend simplement la tranquillité, la sécurité. Et donc, j'ai demandé à l'État de renforcer ses dispositifs sur la sécurité. Je demande à la ville de Paris de travailler sur ses compétences, sur la brigade des incivilités, de travailler sur ses compétences sur l'insalubrité, de travailler sur la diversification commerciale, de travailler sur l'investissement dans nos quartiers, sur des lieux de respiration, des lieux d'espace vert, de lieux dédiés à la culture, de lieux dédiés au sport, d'investir dans ces quartiers. On a besoin d'investir dans nos quartiers du nord-est de Paris.
Quand vous parlez de diversification commerciale, cela veut dire que quand il y a des quartiers qui ne présentent qu'un certain type de commerce, ça génère une situation particulière aussi.
Oui, alors il y a des nouveautés, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des initiatives privées intéressantes, mais il faut accompagner cela, il faut assurer la diversité commerciale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ville doit créer des projets en soutenant l'installation de commerces notamment diversifiés de bouche et culturels, pour que chaque habitant puisse trouver dans son quartier les moyens de s'alimenter comme il le souhaite et de trouver aussi des commerces à vocation culturelle qui lui permettent aussi de s'épanouir dans son quartier et de créer pour toutes celles et tous ceux qui habitent là de réels services. J'ajoute que ce sont des quartiers qui sont des quartiers de la diversité. Diversité sociale, diversité d'origine, diversité générationnelle, et c'est une chance, et que dans leur diversité, les habitants, ils disent, est-ce qu'on a les mêmes droits? Est-ce qu'on a le droit à la même qualité de vie?
Vous avez le sentiment qu'il y a une discrimination vis-à-vis de ces quartiers, notamment en raison de l'origine de leurs habitants?
Je ne dirais pas ça. Je dirais simplement que face à la concentration des difficultés qui sont imposées à ces habitants, eh bien, parce que le peuple parisien est un peuple profondément humaniste, qui ne cédera pas aux sirènes du populisme, du nationalisme dont on parlait dans la première partie de
l'émission. Le Front National fait de très mauvais scores à Paris.
Mais Front National ou autre forme d'excès, ils veulent des solutions immédiatement opérationnelles pour régler des problèmes quotidiens. Avoir des rues propres, avoir un véritable éclairage public, avoir des services publics qui fonctionnent bien, des crèches. Ils veulent avoir la diversité des logements, la diversité des commerces. Ils veulent qu'on s'occupe de la tranquillité au public aussi. C'est pour ça que je propose à Paris depuis longtemps la mise en place d'une police municipale à laquelle Madame Hidalgo, jusqu'à aujourd'hui, même si semble-t-il, elle pourrait changer d'avis, s'y est opposée. Une police municipale à pied et à vélo, dans nos quartiers, en charge de la prévention, en lien direct avec les gardiens d'immeubles, avec les habitants, avec les associations, mais en charge aussi de la répression, des incivilités, de l'insalubrité et de la petite délinquance. C'est un maillon indispensable qui manque aujourd'hui, alors que les grandes villes d'Europe et les grandes villes de France ont une police municipale. À Paris, nous avons toujours un temps de retard et ça se fait au détriment de nos quartiers populaires.
Un de vos modèles, ça pourrait être New York, qui était une ville réputée dangereuse pendant les années 70-80. Et puis ensuite, il y a eu quand même une répression vis-à-vis des incivilités, ce qui fait qu'aujourd'hui, New York est une ville sûre.
Il faut apaiser l'espace public. Pour apaiser l'espace public, il faut évidemment de la répression pour les mauvais comportements, notamment les incivilités. Ça, c'est très important pour retrouver de la qualité de vie, mais il faut aussi investir de l'humain dans les quartiers, c'est-à-dire il faut investir, je le disais tout à l'heure, sur les crèches, la qualité dans les écoles, la qualité alimentaire aussi dans les écoles.
Là, c'est un discours de gauche que vous tenez, Pierre-Yves Bournazel.
Mais peu importe, pour moi, une idée, elle est bonne ou elle ne l'est pas, et quand elle est bonne, on l'applique, elle vient de la gauche ou de la droite. Moi, j'essaie d'être pragmatique et efficace et de faire des propositions qui soient utiles, des solutions immédiatement opérationnelles. Donc investir de l'humain, c'est investir aussi dans la mise en place de soutien à des associations qui font de l'apprentissage, par exemple du français, savoir lire, écrire, compter, aux familles aussi, aux parents. C'est investir de l'humain, c'est aussi la diversité commerciale pour faire installer des commerces diversifiés, je l'ai dit tout à l'heure. Investir de l'humain, c'est investir sur la police municipale de quartier, de proximité. Investir de l'humain, c'est investir aussi des services publics de qualité dans les écoles. Je parlais de la qualité alimentaire dans les cantines, ça veut dire quoi? Moi, je me bats pour qu'on ait des alternatives de circuits courts bio de qualité, qu'on ait une alternative aussi végétarienne.
Anne Hidalgo n'a pas tenté de le faire. Elle a quand même une
dans
une
les huitièmes, par exemple, on a beaucoup de retard en matière
des adjoints écologistes.
Oui, mais l'écologie, c'est une action pour moi. Et moi, je peux être d'accord avec les objectifs de Madame Hidalgo, et on les partage souvent. Mais la méthode n'a pas été la bonne. C'est-à-dire, elle a voulu faire seule, alors qu'il faut travailler avec des partenaires. Il faut travailler avec la région. Demain, moi, je suis prêt à travailler avec la région, avec la métropole, les communes riveraines, le monde économique, le monde associatif, pour trouver ensemble des solutions. Et pour faire reculer la pollution, il faut aussi des parkings relais aux portes de Paris, pour décongestionner Paris de la voiture, mais donner une alternative à ceux qui n'ont pas le choix jusqu'aux portes de Paris d'arriver en voiture. Il faut développer la logistique urbaine. Moi, j'ai fait des propositions pour sortir les véhicules de livraison du centre de Paris en utilisant la Seine. Je fais des propositions aussi pour l'accessibilité de nos transports en commun. Je fais des propositions pour développer le vélo, et notamment en site propre et protégé, en créant aussi des box à vélo végétalisées et sécurisées pour permettre à celles et ceux qui veulent utiliser le vélo de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Il faut aller chercher les partenaires là où ils sont, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan des idées, parce qu'on ne peut pas avoir raison seul contre tout le monde à tout moment. Il faut en finir avec les mandats de celles et ceux qui considèrent qu'ils ont toujours raison dans leur coin. Il faut un mandat plus horizontal qui aille puiser dans l'intelligence collective et chez celles et ceux qui font Paris ou le Grand Paris les bonnes idées et les mettre en place.
Alors, votre lettre ouverte s'adresse à la fois à la ville de Paris et à l'État. C'est à l'État notamment de se préoccuper de cette question de la contrebande, de la vente à la sauvette. Vous avez proposé une mission parlementaire sur le sujet.
Oui, parce que je sais que on va pouvoir réprimer en développant notamment une police municipale. Mais je sais aussi que il va falloir revoir nos dispositifs législatifs et réglementaires. Car derrière, ce sont des filières, ce sont des mafias. Et donc tout ça demande de bien étudier comment ça se passe et que souvent, ils se font du fric sur la misère humaine. Et que donc, c'est pas les vendeurs que vous trouvez au coin de la rue qu'il faut toucher. C'est les filières. Et donc, ça demande une remontée des ramifications. Et donc, je demande effectivement officiellement une mission d'enquête parlementaire sur ces réseaux mafieux qui mettent en place des ventes illégales, de la contrebande à la contrefaçon, qu'il faut absolument sortir de nos quartiers car c'est une plaie.
Comment vous expliquez qu'il y ait toujours autant de pickpockets actifs dans les quartiers touristiques? Ça donne une mauvaise image de Paris, même si les touristes continuent à être fidèles à la capitale française.
Ça donne une mauvaise image, bien sûr, et peut-être une dégradation de notre qualité de vie comme parisien. Et donc, il faut trouver des solutions. Et une des solutions, c'est forcément la police municipale dont je parlais tout à l'heure. À pied, à vélo, elle est visible, elle est sur le terrain, elle est immédiatement réactive et elle peut évidemment faire à la fois de la prévention et de la répression. Et nous ne pouvons pas accepter de rester bras ballants face à la réalité du développement de nouvelles formes de raquettes. Le pickpocket, c'est vrai, dans l'espace public, sur les lieux touristiques, mais aussi dans le métro.
J'en reviens à la saleté à Paris. Vous avez un collègue, Geoffroy Boulard, qui lutte notamment contre la prolifération des rats à Paris. Est-ce que Paris est vraiment plus sale qu'auparavant ou bien c'est notre regard qui a changé avec les réseaux sociaux puisque tout le monde peut photographier un coin de rue qui effectivement est dégradé?
Paris est sale et Paris est sali. C'est une réalité. Il faut voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir y remédier. Je fais des propositions parce que je trouve que dans ce mandat, malheureusement, il n'y a pas eu de volonté de changement des politiques publiques en matière de lutte contre l'insalubrité. Je propose au moins trois leviers nouveaux d'action. D'abord, déconcentrer les pouvoirs de la mairie centrale aux mairies d'arrondissement pour responsabiliser les acteurs locaux qui connaissent mieux les problèmes au quotidien pour gérer le personnel et de aussi de développer les primes pour l'efficacité des personnels pour encourager les initiatives.
Concrètement, aujourd'hui, par exemple, dans le 18e arrondissement, c'est l'hôtel de ville qui gère
le personnel qui nettoie le balayage du 18e. Dépend évidemment de l'hôtel de ville central. Et donc, il faut déconcentrer les pouvoirs aux maires d'arrondissement, les responsabiliser et permettre de mieux suivre le travail des agents et de mieux manager, au fond, ce personnel et aussi, d'ailleurs, le matériel, de gérer le matériel et d'être plus réactif. Ensuite, il faut sanctionner les incivilités et dans le cadre de la police municipale que je voudrais créer, il faudra aussi à l'intérieur créer des unités spécialisées qui permettront de lutter contre les dépôts sauvages et de sanctionner les auteurs des actes. Ça marche dans d'autres villes, je suis allé voir, il y a des unités spécialisées qui sanctionnent très bien, qui retrouvent et qui permettent, si vous voulez, d'empêcher que tout ça se renouvelle. Car quand vous êtes verbalisé et sanctionné, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, eh bien vous avez du mal à recommencer parce que vous savez que ça peut vous coûter cher. Et ensuite, il faut lancer un grand plan d'éducation au respect de l'environnement. Je veux m'appuyer sur le tissu associatif formidable parisien, qui est plein de créativité, qui peut convaincre des citoyens d'avoir des comportements plus éco-responsables, de respecter davantage le domaine public. Et je veux aussi que dans les écoles, dans le cadre des ateliers d'aménagement de rythme scolaire, les associations et les professionnels puissent rentrer à l'école pour éveiller nos jeunes au respect de l'environnement et du domaine public, car c'est souvent les enfants qui peuvent éduquer ensuite les parents qui parfois ne respectent pas tout à fait l'environnement. Donc il faut allier un meilleur service de la ville, une meilleure organisation du balayage, une meilleure organisation des poubelles, du tri, etc. Et être plus efficace. Il faut sanctionner, mais il faut aussi éduquer et éveiller les consciences.
Comment avez-vous interprété le départ de Bruno Julliard, qui était le premier adjoint d'Anne Hidalgo?
Il a eu un réquisitoire extrêmement sévère contre la maire de Paris. Je peux partager un certain nombre de critiques que j'ai moi-même déjà portées sur une gestion trop centralisée, une action trop dogmatique qui ne tient pas suffisamment compte de partenaires et qui n'écoute pas suffisamment les citoyens, les associations, les communes riveraines et qui ne sait pas travailler avec les autres. Après, il va plus loin, il est dans des critiques plus personnelles. Moi, je ne veux pas interférer. Je respecte Madame Hidalgo, je respecte sa personne et sa fonction, et il ne m'appartient pas d'apporter un jugement personnel. Ce que je crois, c'est qu'en 2020, il faudra garder ce qu'elle a fait de bien. Car tout bilan a ses points positifs et négatifs. Quand elle lance l'éducation musicale à l'école, je trouve ça bien, il faudra continuer et poursuivre. Mais il faudra changer sa méthode déjà de gouvernance, qui est encore une fois trop centralisée, mettre plus d'horizontalité, plus d'écoute, s'appuyer sur celles et ceux qui font Paris, aller puiser des bonnes idées dans l'intelligence collective, et mettre après en œuvre les bonnes idées et les évaluer davantage. Et puis, il faut changer aussi sur le fond. Notamment, il faut mieux se battre sur la vie quotidienne. On a parlé de la propreté, on a parlé de la tranquillité publique. Je pourrais parler de l'accès au logement, des mobilités. Elle aura quand même déconstruit les réussites de son prédécesseur, M. Delannoy, qui avait été un maire créatif, notamment Autolib. Vélib, qui est en train de revenir un peu, mais depuis 9 mois, ça a été quand même un service qui a manqué aux Parisiennes et aux Parisiens, et au-delà, à celles et ceux qui l'utilisaient, les grands Parisiens. Et il va falloir aussi amener des réponses opérationnelles aussi aux problèmes de gestion des écoles, des places en crèche, où on peut encore mieux faire. Et enfin, il y a la question de l'attractivité et du rayonnement de Paris, sur la culture notamment. Moi, je ferai des propositions pour créer des ateliers d'artistes, pour attirer celles et ceux qui inventent, qui dans le théâtre, dans la peinture, dans la sculpture, dans le cinéma. C'est important, c'est notre rayonnement. Et en même temps, des infrastructures dans les quartiers. Je veux développer l'accès aux conservatoires. Je veux ouvrir davantage les bibliothèques qui sont ouvertes que 38 heures par semaine à Paris contre 98 à Copenhague, qui sont des lieux
ouverture,
de culture.
Ouverture le dimanche, notamment.
Ouverture le dimanche et le soir pour les familles, pour les étudiants, pour les jeunes, pour les moins jeunes, mais aussi pour, par exemple, je l'ai proposé, lorsqu'il y a moins de monde, pour des associations qui font du bénévolat pour l'apprentissage de la langue française, notamment aux réfugiés ou aux familles primo-arrivantes. Ce sont des lieux qui doivent être ouverts à l'ensemble de la société parce qu'il y a une urgence culturelle aujourd'hui.
Pierre-Yves Bournazel, au sein de La République En Marche, il y a plusieurs candidats plus ou moins déclarés au municipal à Paris. Gaspard Ganzer a lui réuni ses partisans hier soir et puis chacun sait, et on vient de vous entendre, que vous vous préparez vous-même à vous lancer dans la course. Vous avez déjà été candidat à la primaire de la droite. Les jeux n'ont jamais été aussi ouverts à Paris?
Je crois qu'il va falloir sortir des logiques partisanes. Moi, je suis un élu de Paris depuis 10 ans dans le 18e arrondissement dans lequel je vis. J'ai appris beaucoup, j'ai compris beaucoup de sujets et je ne pratique pas le sectarisme. Et je veux construire un projet avec les Parisiennes et les Parisiens. Un projet qui va regarder l'avenir et qui va essayer de rassembler des hommes et des femmes venus d'horizons différents, de la gauche, de la droite, du centre, de la société civile, mais qui ensemble veulent construire leur avenir.
C'est un peu la méthode d'Emmanuel Macron quand il s'est
peut-être,
lancé.
Peut-être, en tout cas, ça a toujours été la mienne.
Dans la présidentielle.
Ça a toujours été la mienne. J'ai été élu député dans la 18e circonscription, dans une circonscription classée très à gauche.
Alors que vous êtes les Républicains UMP à l'origine.
À l'origine, j'étais porte-parole d'Alain Juppé. J'ai toujours été dans ce qu'on appelle le centre droit humaniste et européen. Mais aujourd'hui, on est en recomposition politique. Tout ça ne veut plus dire grand-chose. Ce qui compte, c'est les idées. Et pour une ville, ce qui compte, c'est pas l'étiquette. Mon étiquette, moi, c'est Paris, et singulièrement le 18e. Et ce que je veux faire, c'est reprendre une bonne gouvernance, c'est me battre pour un vrai projet, et c'est additionner tous les talents au service de cette ville. Et cela passe pas par des étiquettes partisanes. En revanche...
Vous pouvez vous inspirer de Jacques Chirac et de Bertrand Delanoë, par exemple.
Oui, je garderai de Jacques Chirac sa vitalité, son énergie au service de Paris, le cap et la vision qu'il avait pour la ville. Je garderai la créativité de Bertrand Delanoë. Et j'ai même dit qu'il ne me gênait pas du tout de conserver les réussites de Madame Hidalgo lorsque j'estime qu'elles sont là. Il faut pas être sectaire dans la vie. Le but, c'est de faire avancer sa ville. C'est comme ça que je conçois la politique et mon engagement. Ce n'est pas simple, mais il y a un chemin. Et moi, je veux additionner. Et puis, vous savez, je crois que les Parisiens ont quand même souffert d'être divisés. On a besoin d'apaiser le débat public. Moi, je voudrais qu'on construise une relation de confiance nouvelle entre les élus, les citoyens, entre les administrés, l'administration. Je crois qu'il faut beaucoup décloisonner tout ça, ouvrir grand les portes et les fenêtres de la vie publique et politique. Et je veux associer les citoyens parisiens aux décisions, dans les aménagements de quartier. Je souhaite qu'on puisse co-construire avec les habitants. Il y a une parcelle qui est libre, qu'est-ce qu'on fait? De quoi a-t-on besoin dans notre quartier? C'est pas la ville toute seule qui doit le décider, c'est avec les citoyens. On a des quartiers déjà très denses, on n'a pas besoin d'une politique de chiffres, on a besoin plutôt de développer les espaces verts, les infrastructures culturelles, les infrastructures sportives, les infrastructures dédiées à l'innovation, éventuellement au développement de start-up. Décidons ensemble des projets dans les quartiers. Et c'est avec cette méthode-là, plus horizontale, plus à l'écoute, que l'on pourra faire avancer Paris. Moi, en tout cas, je crois qu'il y a un bel avenir pour le progrès de Paris.
Merci Pierre-Yves Bournazel. Je rappelle que vous êtes député Agir les Constructifs de Paris, élu du 18e arrondissement. Bonsoir.
Merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.